La première cause d'ambiguïté et d'obscurité dans les livres saints vient de ce que les lettres d'un même organe se prennent l'une pour l'autre. Les Hébreux, en effet, divisent toutes les lettres de l'alphabet en cinq classes, qui correspondent aux cinq parties de la bouche qui servent à la prononciation, savoir les lèvres, la langue, les dents, le palais et le gosier. Par exemple, alpha, get, gain, he, sont appelées gutturales et se prennent indifféremment, à notre avis du moins, l'une pour l'autre. Ainsi, L, qui signifie vert, se prend souvent pour guy, qui signifie au-dessus et réciproquement. Et de là, bien que toutes les parties du discours sont presque toujours ou ambiguës ou dépourvues d'un sens précis. La seconde cause d'ambiguïté, c'est que les conjonctions et les adverbes ont plusieurs significations. Par exemple, « vaut », qui est aussi bien conjonctif que disjonctif, signifie « et »,« mais »,« pour »,« que »,« or »,« alors ». »,« qui » a également 7 ou 8 significations, savoir « parce que »,« quoique »,« si »,« quand »,« de même »,« que »,« ce que »,« combustion », etc. Il en est de même de presque toutes les particules. Mais voici une troisième source d'ambiguïté multipliée. Les verbes en hébreu n'ont un indicatif ni présent, ni prétérit imparfait, ni plus que parfait, ni futur parfait, ni les autres temps les plus usités dans les autres langues. À l'impératif et à l'infinitif, ils n'ont d'autre temps que le présent. Au subjonctif, enfin, ils n'en ont point du tout. Or, bien qu'il soit aisé de réparer ce défaut de temps et de mode dont les règles certaines tiraient des principes de la langue et que l'élégance même y trouve son compte, il n'en est pas moins vrai que les plus anciens écrivains ont négligé totalement ces règles, mettant sans distinction le futur pour le présent et pour le prétérit, et réciproquement le prétérit pour le futur, se servant de l'indicatif pour l'impératif et pour le subjonctif, donnant enfin naissance à une foule d'amphibologies. Outre ces trois causes d'ambiguïté, je dois citer deux autres qui sont encore de plus grandes conséquences. La première, c'est que l'hébreu n'a pas de voyelle. La seconde, c'est qu'il ne fournit aucun signe pour séparer les phrases et prononcer les mots. Je sais bien qu'on a remplacé tout cela dans la Bible par des points et des accents, mais nous ne pouvons nous y fier, sachant bien qu'ils ont été imaginés et introduits par des hommes d'un temps postérieur, dont l'autorité ne doit avoir aucune valeur à nos yeux. Quant aux anciens hébreux, il est parfaitement certain, par une foule de témoignages, qu'ils écrivaient sans points, je veux dire sans voyelles et sans accents, de sorte que les interprètes venus plus tard les ont ajoutés au texte suivant la manière dont ils l'entendaient, d'où il suit qu'il n'y faut voir autre chose que leurs sentiments particuliers, et ne pas accorder à ces signes arbitraires plus d'autorité qu'à une explication proprement dite. C'est faute de savoir toutes ces circonstances que plusieurs ne peuvent comprendre pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux est parfaitement excusable d'avoir, au chapitre 11, verset 21, interprété le texte du chapitre 47, verset 31 de la Genèse, tout autrement qu'il ne faudrait faire en suivant le texte ponctué. Je demande en effet si l'apôtre avait à s'adresser aux ponctuistes pour entendre l'Écriture. C'est bien plutôt ces ponctuistes eux-mêmes qu'il faut mettre en cause. Et pour le prouver, et en même temps pour faire voir à chacun que cette divergence dans l'interprétation provient du défaut de voyelle, je vais exposer ici les deux sens qu'on a donnés à cet endroit de l'Écriture. Les ponctuistes ont entendu ainsi, par leur manière de ponctuer, et Israël se pencha sur, ou, en changeant Gain Halef, lettre du même organe, vers le chevet de son lit. L'auteur de l'Épître a entendu au contraire, et Israël se pencha sur le haut de son bâton. Pourquoi cela? C'est qu'il a lu Mat au lieu de Mita, différence qui est tout entière dans les voyelles. Or maintenant, comme il ne s'agit dans le récit de la Genèse que de la vieillesse de Jacob et non pas de sa maladie dont il est parlé seulement au chapitre qui suit, il est vraisemblable que l'écrivain a voulu dire que Jacob se pencha sur le haut de son bâton, geste familier au vieillard d'un âge très avancé, et non pas sur le chevet de son lit. Ajoutez que cette manière d'entendre le texte a encore un autre avantage, c'est qu'on est obligé de supposer aucune subalternation de lettres. Cet exemple peut donc servir non seulement à montrer l'accord de ce passage de l'Épître aux Hébreux avec le texte de la Genèse, mais à faire voir en même temps combien peu il faut se fier à la ponctuation et à l'accentuation actuelle de la Bible. D'où il résulte qu'on doit les tenir pour suspectes et revoir le texte tout de nouveau si l'on veut interpréter sans préjugés les Saintes Écritures. Je reviens à mon sujet. Il est aisé de reconnaître par la nature et la constitution de la langue hébraïque qu'aucune méthode n'est capable d'en éclaircir toutes les difficultés. Car il ne faut point espérer d'y réussir par la comparaison des passages, bien que ce soit le seul moyen de reconnaître le véritable sens de chacun d'eux parmi une infinité de sens divers que l'usage de la langue permet de leur donner. Mais d'abord, ce n'est guère que par hasard qu'un passage peut servir à en éclaircir un autre, nul prophète n'ayant écrit dans le dessein d'expliquer ses propres paroles ou celles de ses devanciers. De plus, nous ne pouvons pas déduire la pensée d'un prophète, d'un apôtre, etc., de celle d'un autre prophète ou d'un autre apôtre, si ce n'est dans les choses qui regardent la pratique de la vie. Mais dès qu'il s'agit de choses spéculatives ou de récits historiques et miraculeux, cela est absolument impossible. Et il me serait aisé de montrer ici par plusieurs exemples qu'il y a dans l'Écriture une foule de passages inexplicables. Mais j'aime bien ajourner présentement cette espèce de preuve, afin de terminer ce qui me reste à dire sur les difficultés et les défauts qui se rencontrent dans la méthode que je propose ici pour interpréter l'Écriture. Cette méthode nous impose la nécessité de connaître l'histoire de la destinée de tous les livres de l'Écriture. Or, cette histoire nous est le plus souvent inconnue. Car, ou bien nous ne savons pas du tout quels ont été les auteurs de ces livres, ou, si l'on veut, les personnes qui les ont écrits, ou bien nous avons au moins des doutes sur ce point. De plus, ces ouvrages dont les auteurs nous sont inconnus, nous ignorons à quelle occasion et à quel temps ils ont été écrits. Mais ce n'est pas tout. Nous ignorons encore quelles mains les ont recueillis, quels exemplaires ont fourni des leçons si diverses. Nous ne savons pas enfin si d'autres exemplaires ne renfermaient pas d'autres leçons. Or, nous avons fait voir ailleurs combien il serait important d'être instruit de toutes ces circonstances. Mais n'en ayant dit que peu de mots, c'est ici le moment d'en parler avec quelque étendue. Supposons qu'on vienne à lire dans un ouvrage des choses incroyables ou incompréhensibles ou écrites en termes obscurs, que l'auteur en soit inconnu et qu'on ignore en quel temps et à quelle occasion il les a écrites. Il est clair qu'on chercherait en vain à s'assurer du véritable sens de ces paroles, puisqu'il serait impossible de savoir quelle a été. Quelle a pu être l'intention qui les a dictées? Si au contraire, on est parfaitement informé sur tous ces points, on peut alors débarrasser son esprit de tout préjugé et déterminer exactement ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas attribuer à l'auteur de cet ouvrage ou à celui qui l'a inspiré. On a une règle entre les mains pour interpréter son livre et n'y a rien supposé que ce qu'il contient effectivement et ce que comporte le temps et les circonstances où il a été composé. Tout cela ne sera certainement contesté de personne. C'est en effet la chose du monde la plus ordinaire de lire des récits du même genre en divers ouvrages et d'en juger tout diversement suivant l'opinion qu'on s'est formée des auteurs. Je me souviens d'avoir lu autrefois quelque part qu'un certain personnage nommé Roland Furieux traversait les régions de l'air sur un monstre ailé qu'il menait à son gré, massacrant un nombre infini d'hommes et de géants et mille autres récits fantastiques tout à fait inconcevables pour la raison. Or, il y a dans Ovide une histoire toute pareille de Persée. Et dans les livres des juges et des rois, il est dit que Samson, seul et sans armes, tua des milliers d'hommes, et qu'Élie fut enlevé au ciel sur un char enflammé et traîné par des coursiers de feu. Je dis donc que toutes ces histoires sont exactement semblables, et néanmoins, nous en portons des jugements très divers, car nous disons que l'auteur de Roland Furieux a écrit pour se jouer, et qu'Ovide a eu des vues politiques. Mais le troisième historien nous expose des choses sacrées. D'où vient cette différence ? Uniquement des opinions que nous nous sommes formées à l'avance touchant ces trois écrivains. Il est donc certain que pour interpréter les ouvrages qui contiennent des choses obscures et incompréhensibles, il est particulièrement nécessaire d'en connaître les auteurs. Et de même aussi, par des raisons toutes semblables, on conçoit qu'il ne serait pas possible de discerner, parmi tant de leçons diverses qui se rencontrent dans les histoires obscures, quelles sont les véritables, à moins de savoir en quels exemplaires ces leçons ont été trouvées. Et s'il n'y a pas d'autres leçons données par des hommes d'une plus grande autorité. Une autre difficulté que rencontre notre méthode dans l'interprétation de certains livres de l'Écriture, c'est que nous ne les avons plus dans la même langue où ils ont été écrits. C'est une opinion généralement reçue que l'Évangile selon saint Matthieu, et même l'Épître aux Hébreux, ont été écrits en langue hébraïque. Or, le texte primitif n'existe plus. De même, on ne sait pas bien en quelle langue a été écrit le livre de Job. Aben Ezra soutient en ses commentaires qu'il a été traduit d'une autre langue en hébreu, et il en explique ainsi les obscurités. Je ne dis rien des livres apocryphes, car ils n'ont pas à beaucoup près la même autorité. Voilà toutes les difficultés qu'on a à surmonter quand on veut interpréter l'Écriture en se fondant sur son histoire. Elles sont si grandes que j'ose affirmer qu'il faut savoir ignorer le véritable sens d'une foule de passages des livres saints si l'on ne veut se payer de vaines conjectures. Toutefois, Il faut bien remarquer que ces difficultés ne se présentent que lorsqu'il s'agit dans les prophètes de choses incompréhensibles pour la raison ou qu'ils ne s'adressent qu'à l'imagination. Car pour les choses que l'entendement peut atteindre d'une vue claire et distincte et qui sont concevables par elles-mêmes, on a beau en parler obscurément, nous les entendons toujours sans beaucoup de peine suivant le proverbe « À qui comprend, un mot suffit ». Euclide, par exemple, qui a traité dans ses livres que d'objets très simples et parfaitement intelligibles, se fait comprendre en toutes sortes de langues par les moins habiles. Et il n'est point du tout nécessaire, pour pénétrer dans sa pensée et être certain du véritable sens de ses paroles, de posséder parfaitement la langue où il a écrit. Il suffit d'en avoir une connaissance très ordinaire et dont un enfant serait capable. Ce n'est pas non plus une chose nécessaire de connaître la vie de cet auteur, ses mœurs, ses préjugés, le temps et la langue où il a composé ses ouvrages, à qui il les a adressés, les diverses fortunes qu'ils ont subies, les diverses leçons qu'ils ont reçues, comment enfin et par qui leur autorité scientifique s'est établie. Or, ce que nous disons d'Euclide se peut étendre à tous les auteurs qui ont traité de choses concevables par elles-mêmes. D'où je conclus qu'il n'est rien de plus aisé que de comprendre l'autorité au moyen de son histoire et d'en établir le véritable sens en tout ce qui touche les vérités morales. Car les principes de la véritable piété, étant communs à tous, s'expriment dans les termes les plus familiers à tous. Et il n'est rien de plus simple, ni de plus facile à comprendre. D'ailleurs, en quoi consiste le salut et la vraie béatitude, sinon dans la paix de l'âme? Or, l'âme ne trouve la paix que dans la claire intelligence des choses. Il suit donc de là, de la façon la plus évidente, que nous pouvons atteindre avec certitude le sens de l'Écriture sainte en tout ce qui touche à la béatitude et au salut. Et s'il en est ainsi, pourquoi nous mettre en peine du reste? Comme il faut beaucoup d'intelligence et un grand effort de raison pour pénétrer jusqu'à ces matières, c'est ainsi assuré qu'elles sont plus faites pour satisfaire la curiosité que pour procurer une utilité véritable. J'ai exposé dans ce qui précède la vraie méthode pour interpréter l'Écriture, et il me semble que ma pensée doit paraître suffisamment éclaircie. Aussi, je ne doute pas que chacun ne s'aperçoive que cette méthode ne demande aucune autre lumière que celle de la raison naturelle, dont la fonction et la puissance consistent surtout, comme on sait, à conduire l'esprit par des conséquences légitimes de ce qui est connu ou donné comme tel à ce qui est obscur et inconnu. Or, notre méthode ne requiert point d'autre procédé que celui-là, et si elle n'est pas capable, comme nous le reconnaissons nous-mêmes, de surmonter toutes les difficultés qui se rencontrent dans l'interprétation des livres saints, ce n'est point à elle qu'il faut reprocher cette insuffisance. La difficulté tient à ce que les hommes n'ont pas toujours suivi la voie droite et légitime, et cette voie ainsi abandonnée de tous est devenue avec le temps si difficile et si obstruée qu'il est presque impossible de s'y frayer un passage. C'est ce dont on peut s'assurer, je crois, en considérant la nature des difficultés qui ont été signalées tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à examiner les opinions de ceux qui combattent la nôtre. La première qui se présente consiste à prétendre que l'interprétation de l'Écriture surpasse la portée de la raison naturelle et qu'une lumière surnaturelle est absolument nécessaire pour comprendre les livres saints. Qu'entendent-ils par cette lumière surnaturelle? C'est un point dont je leur laisse l'explication. Quant à moi, je n'y vois autre chose que cet aveu, déguisé, il est vrai, sous les termes obscurs, qu'ils ont les mêmes doutes que nous sur un grand nombre de passages de l'Écriture. Que l'on examine en effet d'un œil attentif les explications qu'ils nous donnent, bien loin d'y trouver un caractère surnaturel, on n'y verra que de simples conjectures. Et si on compare ces conjectures avec l'interprétation de ceux qui avouent ingénument qu'ils ne se sont éclairés d'aucune lumière surnaturelle, on se convaincra que tout est parfaitement égal de part et d'autre, et qu'il n'y a des deux côtés rien d'autre chose que des explications humaines, trouvées avec effort après de longues méditations. Nos adversaires soutiennent, il est vrai, que la lumière naturelle est trop faible pour pénétrer jusqu'à l'Écriture sainte. Mais n'avons-nous pas déjà démontré que la difficulté d'entendre les livres saints ne provient pas de la faiblesse de la raison, mais de la paresse, pour ne pas dire de la malice, de ceux qui ont négligé de nous transmettre, quand la chose était possible et facile, une histoire fidèle de l'Écriture? De plus, la lumière surnaturelle dont on nous parle est, au sentiment de tout le monde, un don divin qui n'est accordé qu'aux fidèles. Or, ce n'est pas aux seuls fidèles que les prophètes étaient habitués à s'adresser, mais plus particulièrement aux infidèles et aux méchants, qui, à ce compte, eussent été incapables de comprendre les paroles des apôtres et des prophètes. Il semblerait donc que ces envoyés divins avaient mission de prêcher seulement aux enfants et non pas à des hommes doués de raison. Je demande aussi à quoi il aurait servi que Moïse établit des lois, si les fidèles seuls qui n'ont besoin d'aucune loi eussent été capables de les entendre. Il paraît donc bien certain que ceux qui, pour entendre les prophètes et les apôtres, cherchent une lumière surnaturelle, ne sont pas suffisamment éclairés de la naturelle, tant s'en faut qu'ils aient reçu des dons supérieurs et divins. Maïmonide a adopté des sentiments bien différents. Il a cru qu'il n'y a point de passage dans l'Écriture qui n'admette plusieurs sens divers et même contraires, et qu'il est impossible d'être assuré du véritable si l'on a la preuve que l'interprétation qu'on propose ne contient rien qui ne soit d'accord avec la raison. Car s'il se trouve que le sens littéral, quoique parfaitement clair en soi, choque la raison, il est d'avis qu'on le doit abandonner pour en chercher un autre. C'est ce qu'il explique très expressément au chapitre 25, partie 2 du livre Morée des Bouchim. Sachez bien, dit-il, que si nous ne voulons pas admettre l'éternité du monde, ce n'est point à cause des passages de l'Écriture où il est dit que le monde a été créé, car il y a tout autant de passages où Dieu nous est représenté comme corporel. Or, de même que nous avons expliqué ces endroits de l'Écriture de façon à éloigner de la nature de Dieu toute matérialité, nous aurions également trouvé moyen d'interpréter les passages sur la création dans un sens favorable à l'éternité du monde. Et la chose même eût été pour tous plus facile et plus commode. Mais ce qui nous a empêchés d'en user de la sorte et d'admettre que le monde est éternel, ce sont les deux raisons que voici. Premièrement, il résulte des plus claires démonstrations que Dieu n'est pas un être corporel, et par conséquent il est nécessaire d'approprier à cette vérité tous les endroits de l'Écriture qui y sont littéralement contraires, puisqu'il est de toute certitude que l'interprétation littérale n'est pas véritable. Mais l'éternité du monde n'est établie par aucune démonstration. D'où il résulte qu'il n'y a aucune nécessité de faire violence au texte de l'Écriture pour la mettre d'accord avec une opinion tout au plus vraisemblable, puisqu'il y a même quelques raisons d'incliner vers l'opinion contraire. Deuxièmement, ma seconde raison, c'est que le principe de l'immatérialité de Dieu n'a rien de contraire à l'esprit de la loi, etc., au lieu que l'éternité du monde, admise au sens d'Aristote, détruit la loi par son fondement, etc. Telles sont les propres paroles de Maïmonide, et il est aisé de s'assurer que nous avons fidèlement rapporté sa doctrine. Car si cet auteur eût admis par la raison que le monde est éternel, il n'eût pas hésité à presser et à violenter le texte de l'Écriture pour en tirer la confirmation de ce principe. Il lui-même était immédiatement convaincu, en dépit de l'Écriture, et contre ses déclarations les plus claires, qu'elle enseigne expressément l'éternité du monde. Il suit de là que, dans l'opinion de Maïmonide, on ne peut être certain du véritable sens d'un passage de l'Écriture, si clair qu'il soit d'ailleurs, tant qu'on est en doute sur la vérité de la doctrine qu'il exprime. Car pendant que ce doute subsiste, on ignore encore si le sens littéral de l'Écriture est d'accord ou non avec la raison, et par conséquent, s'il est ou non le véritable. Certes, si Maïmonide disait vrai, j'avouerai franchement que, pour interpréter l'histoire, il faut une autre lumière que celle de la raison naturelle. Car n'ayant presque rien dans la Bible qui se puisse déduire de principes rationnels, il est clair que la raison ne peut nous être d'aucune utilité en ces rencontres pour entendre les livres saints. Et dès lors, une lumière plus haute serait absolument nécessaire. Une autre conséquence de l'opinion de Maïmonide, c'est que le vulgaire, qui ne sait ce que c'est qu'une démonstration ou n'a pas le temps de s'y appliquer, ne pourrait connaître l'Écriture sainte que sur l'autorité et le témoignage des philosophes. Et à ce compte, il faudrait les supposer infaillibles. Voici donc une autorité fort nouvelle dans l'Église, une nouvelle espèce de prêtre et de pontife. Et certes, elle inspirait au vulgaire moins de vénération que de mépris. On dira que notre méthode exige, elle aussi, une connaissance que le vulgaire ne peut acquérir, celle de l'hébreu. Mais cette objection ne nous atteint réellement pas, car la masse des juifs et des gentils, à qui s'adressaient autrefois dans leurs prédications et de leurs écrits les prophètes et les apôtres, entendaient parfaitement leur langage, et partant, pouvaient entendre leurs pensées, au lieu qu'elle était incapable de saisir la raison des choses qu'on lui enseignait, ce qui était pourtant, suivant Maïmonide, une condition nécessaire pour les comprendre. Ce n'est donc pas une suite nécessaire dans notre méthode d'obliger le peuple à se soumettre aux témoignages des interprètes de l'Écriture, puisque nous citons un peuple qui entendait la langue des prophètes et des apôtres. Et nous pouvons mettre Maïmonide au défi d'en indiquer un qui soit capable de comprendre la raison des choses. Quant au peuple d'aujourd'hui, nous avons déjà fait voir qu'il lui est facile d'entendre en chaque langue toutes les choses nécessaires au salut sans avoir besoin d'en connaître la raison. Elles ont en effet un caractère si général et un rapport si étroit à la vie commune qu'elles se font concevoir par elles-mêmes et indépendamment du témoignage des interprètes. Il en est tout autrement, je l'avoue, des passages des livres saints qui ne regardent pas le salut. Mais ici, le peuple et les doctes partagent la même fortune. Je reviens au sentiment de Maïmonide afin de l'examiner de plus près. Il suppose en premier lieu que les prophètes sont d'accord entre eux sur toute chose, et que ce sont même de grands philosophes et de grands théologiens, puisque leurs opinions, suivant lui, sont toujours fondées sur la vérité des choses. Or, nous avons prouvé le contraire au chapitre 2. Il suppose, en second lieu, que l'Écriture ne fournit point à qui veut interpréter les lumières nécessaires, par la raison qu'elle ne démontre rien, ne donne jamais de définition, ne remonte pas enfin aux premières causes, d'où il suit que ce n'est point en elle qu'il faut chercher la vérité des choses, et en conséquence, que ce n'est point elle qui peut nous éclairer sur son propre sens. Mais cette seconde prétention est aussi fausse que la première, et nous avons également montré dans notre deuxième chapitre, tant par la raison que par des exemples, que le sens de l'Écriture ne doit être cherché que dans l'Écriture elle-même, lors même qu'elle ne parle que de choses accessibles à la lumière naturelle. Maïmonide suppose enfin qu'il nous est permis d'interpréter l'Écriture selon nos préjugés, de la torturer à notre gré, d'en rejeter le sens littéral, quoique très clair et très explicite, pour y substituer un autre sens. Mais outre que cette licence est tout ce qu'il y a de plus contraire aux principes que nous avons établis dans le chapitre déjà cité et dans les suivants, qui ne voit qu'elle est excessive et téméraire au plus haut degré? Accordons-lui du reste cette extrême liberté. De quoi lui servira-t-elle? De rien, assurément. Car il sera toujours impossible d'expliquer et d'interpréter par sa méthode les passages obscurs et incompréhensibles qui composent la plus grande partie de l'Écriture, au lieu qu'il n'y a rien au monde de plus facile, en suivant notre méthode, que d'éclaircir beaucoup de ces obscurités et d'aboutir sûrement à d'exactes conséquences, ainsi que nous l'avons déjà prouvé, et par la raison, et par le fait. Quant aux passages qui par eux-mêmes sont intelligibles, on en connaît assez le sens par la construction du discours. Je conclus de là que la méthode de Maïmonide est absolument inutile. Ajouter qu'elle ôte au peuple toute la certitude qu'il peut tirer d'une lecture faite avec sincérité, et à tout le monde la faculté d'entendre l'Écriture par une méthode toute différente. Il faut donc absolument rejeter la méthode de Maïmonide comme inutile, dangereuse et absurde. Si on nous propose maintenant la tradition des pharisiens ou l'autorité des pontifes de Rome, nous dirons que la première n'est pas d'accord avec elle-même. Et quant à la seconde, elle ne s'appuie pas sur des témoignages assez authentiques, et nous n'avons pas d'autre motif pour la rejeter. Car si l'Écriture nous montrait l'autorité de ces pontifes aussi clairement qu'elle fait celle des pontifes de l'ancienne loi, peu nous importerait qu'il y ait eu des papes hérétiques et impies, puisqu'il s'en est également rencontré parmi les Hébreux qui ne valaient pas davantage, et qui se sont emparés du pontificat par des moyens illégitimes, ce qui ne les a pas empêchés d'exercer le pouvoir suprême d'interpréter la loi. On peut en voir la preuve dans l'Exode, chapitre 17, versets 11 et 12, chapitre 33, verset 10, et dans Malachie, chapitre 2, verset 8. Or, comme nous ne rencontrons dans l'Écriture aucun témoignage semblable en faveur des pontifes romains, leur autorité demeure à nos yeux fort suspecte. On dira peut-être que la religion catholique n'a pas moins besoin d'un pontife que l'ancienne loi, mais ce n'est là qu'une illusion, car il faut remarquer que la loi de Moïse, étant pour les Hébreux le droit public de la patrie, elle ne pouvait subsister sans une autorité publique. Car s'il était permis à chaque citoyen d'interpréter à son gré les droits des autres citoyens, il n'y a pas d'État qui fût capable de se maintenir. Le droit public ne serait plus que le droit particulier, et l'ordre social s'écroulerait incontinent. Mais il en va tout autrement en matière de religion. Car comme elle consiste moins dans les œuvres extérieures que dans la simplicité et la pureté de l'âme, elle n'a besoin d'être protégée par aucune autorité publique. Ce n'est point en effet l'empire des lois, ce n'est point la force publique qui donne au cœur cette droiture et cette pureté. Et personne ne peut être contraint par la force à suivre les voies de la béatitude. Des conseils fraternels et pieux, une bonne éducation, et avant tout la libre possession de ses jugements, voilà les seuls moyens d'y conduire. Ainsi donc, puisque chacun a pleinement le droit de penser avec liberté, même en matière de religion, et qu'on ne peut concevoir que personne renonce à l'exercice de ce droit, il s'ensuit que chacun dispose d'une autorité souveraine et d'un droit absolu pour prendre parti sur les choses religieuses, et par conséquent, pour les expliquer lui-même et en être l'interprète. Car de même que le droit d'interpréter les lois et la décision souveraine des affaires publiques n'appartiennent aux magistrats que parce qu'elles sont du droit public, de même, chaque particulier a une autorité absolue pour décider de la religion et pour l'expliquer, parce qu'elle est de droit particulier. Il s'en faut donc beaucoup qu'on puisse afférer de l'autorité qu'exerçaient jadis les pontifes hébreux dans l'interprétation des lois du pays, que le pontife romain ait le même droit pour interpréter la religion. Tout au contraire, on est mieux fondé à en conclure que chacun a ce droit pour ce qui le concerne, et nous tirons de là une preuve nouvelle de l'excellence de notre méthode. Car, puisque chacun a le droit d'interpréter l'Écriture, il en résulte que la seule régie dont il faille se servir, c'est la lumière naturelle commune à tous les hommes, et par suite, que toute lumière surnaturelle, toute autorité étrangère n'y sont nullement nécessaires. Il ne faut point en effet que l'interprétation des livres saints soit si difficile qu'elle ne puisse être pratiquée que par de très subtils philosophes. Il faut au contraire qu'elle soit proportionnée à la portée commune et à l'ordinaire capacité des esprits. Or c'est là justement le caractère de notre méthode, puisque nous avons montré que ce n'est point à elle qu'il faut s'en prendre de toutes les difficultés qui se rencontrent dans l'explication des livres saints, mais à la négligence des hommes.